Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, c'est Camille et Justine et bienvenue dans On se tient au jus. Aujourd'hui, on boit un petit jus de orange-carotte avec Flore Benguigui.
Coucou.
Coucou. Flore, on va te présenter comme d'habitude à nos auditeurs. Comme d'habitude, on présente Flore parce qu'on l'a tous les jours dans notre tête. F comme fraîche. Déjà physiquement, mais ça, c'est pas important. C'est surtout sa douce voix par laquelle on aimerait être bercé tous les soirs de cette vie.
Oh. L comme l'impératrice. C'est elle, la chanteuse de ce groupe de pop musique qui a sorti 2 albums et qu'on adore.
O comme oser parler, elle n'a pas eu peur de prendre la parole publiquement pour dénoncer le sexisme dans le milieu de la musique.
R comme responsable des dad jokes, c'est sa description sur Instagram.
E comme écouter Chercher la femme, son podcast mensuel qui fait parler et fait entendre les femmes du monde de la musique.
Oh là là, merci. Donc... j'ai envoyé à ma mère.
D'ailleurs, on a découvert que tu faisais un podcast aussi. Ah. Il est toujours d'actualité ?
Tout à fait. Ouais, je prépare la saison 2 qui commencera normalement à partir de janvier.
Et donc, si j'ai bien compris, tu invites dedans des femmes ou tu parles de femmes méconnues du monde de la musique ?
C'est les deux.
Ok, donc j'ai bien
compris. En fait, c'est les deux. Chaque épisode a un thème, par exemple, un épisode sur les femmes bassistes. Et donc, d'abord, je raconte des histoires de femmes bassistes qu'on a soit oubliées, soit qu'on ne connaît même pas. Et je fais écouter un peu des trucs. Et après, j'interviewe une bassiste française, souvent. Et donc, après, voilà, il y a 9 épisodes de la saison 1. Et là, je prépare la saison 2 qui va être assez cool. Et il y aura en plus des petits événements en plus liés à chaque sortie d'épisode où on va un peu créer du lien entre les femmes du monde de la musique et faire la fête aussi toutes ensemble.
Et c'est dispo sur toutes les plateformes ou c'est...
Tout à fait, ouais. Okay. C'est diffusé sur Tsugi Radio et c'est dispo après sur toutes les plateformes.
Ok, trop cool.
Trop bien. Et question rhétorique, qu'est-ce qui t'a donné envie de créer ce podcast ? Ça vient de toi
Bah, ça vient de moi et de ce constat aussi, en étant femme du monde de la musique, que bah, les femmes de ce monde-là sont invisibilisées, bon, comme dans à peu près beaucoup de domaines, hein, voilà, on va pas se mentir, mais voilà, comme je suis immergée là-dedans, je me suis dit, bon, là, il faut que je fasse quelque chose, qu'est-ce que je peux faire à mon échelle, avec en plus mon syndrome de l'imposteur, voilà, aussi qui est assez fréquent chez toutes les femmes, mais donc je me suis dit, bon, la musique, je suis dedans, je connais ce milieu-là, j'ai du matos pour enregistrer ma voix, donc vas-y,
let's
en fait,
go.
Je vais parler de toutes ces femmes.
Et à quel moment tu te rends compte, enfin, c'est un « on », ça nous concerne un peu, mais à quel moment on s'est rendu compte qu'on était invisibilisés, tu vois ce que je veux dire, c'est que à quel moment tu as changé de, bah en fait, si on n'a pas tellement parlé des femmes bassistes, c'est peut-être parce qu'il n'y en a pas, est-ce que tu as un tilt qui fait, bah si, en fait, il y en a plein, bon, bah j'ai envie de les mettre en avant, et qu'est-ce qui fait que j'ai l'impression qu'il n'y a que les femmes en fait, qui réalisent ça. Les hommes, ils sont toujours persuadés qu'il n'y en a pas.
Bah, complètement. Et puis surtout, je me suis rendu compte quand même avec mon podcast que la plupart des... Enfin, c'est surtout des femmes en fait, qui m'écoutent et qui repartagent.
Tiens.
Après, il y a des hommes qui m'écoutent, hein, c'est super. Mais c'est vrai que oui, en grande majorité, c'est les femmes. Donc c'est surtout... En fait, ça intéresse surtout les femmes de savoir quelles étaient toutes ces femmes.
Mais toi, il y a un moment où tu t'es dit « Ah, c'est parce que je veux parler d'elle », ou tu le sais de base qu'il y a plein de femmes partout parce que c'est ton milieu ?
Non, je le sais pas du tout parce que personne n'en parle. Donc, non, moi-même, je suis allée chercher. Et c'est vrai que parfois, quand je fais des épisodes, je galère à trouver des femmes, surtout les femmes à interviewer. Parce qu'à la limite, des histoires de femmes passées, il y en a. Si on cherche un peu, c'est pour ça que ça s'appelle « Chercher la femme
ouais. »,
c'est qu'il suffit de chercher, en fait. Et dès que tu cherches un peu, t'en trouves. Mais c'est vrai que les femmes à interviewer, donc ils doivent être des femmes françaises, du coup, pour que ce soit plus simple, sinon il faut traduire sur loup. Là, parfois, je galère grave à trouver des femmes guitaristes classiques, des femmes bassistes, des femmes batteuses. Genre, je les ai trouvées, hein. Tout à la fin, j'ai fini par les trouver.
Mais ça demande plus de boulot, effectivement, que si tu cherches un mec qui va t'arriver plus vite sous la main. Quoi.
C'est plus disponible.
Complètement.
Mais en tout cas, ça se résume grave à ce que tu dis, il faut chercher. Enfin, nous, le nombre de fois où on a dit ça, notamment quand on a créé notre série Go, c'était vraiment le truc sur lequel on a insisté à mort. On voulait que l'équipe technique soit majoritairement des femmes, et la technique dans le cinéma, pareil, c'est représenté majoritairement par des hommes. Et du coup, le plus simple, c'est pour les hommes surtout, c'est de dire bah c'est bon, je connais quelqu'un, et c'est toujours un mec qui était là. Non, on va faire un taf supplémentaire et on va chercher et on va trouver à la fin en plus. Donc on peut en cherchant, on peut trouver quoi.
Mais j'ai l'impression que c'est surtout les femmes qui font cet voilà. effort-là supplémentaire d'aller chercher quoi.
Et ouais. en même temps, c'est parce que ça nous touche nous et que eux, en fait, ils ont pas tellement intérêt, même si au final tout le monde est gagnant parce que les équipes plus paritaires et plus mixtes, c'est bien positif, enfin, c'est bien plus positif parce que ça apporte d'autres regards et c'est évidemment carrément. Beaucoup plus riche. Mais sur le principe, eux, ils s'en foutent, ils sont autour de leurs potes, ils vont rigoler ensemble. Il n'y a pas une féministe qui va lever les yeux au ciel quand ils font une blague sexiste, tu vois. Enfin, en vrai, ils sont gagnants, ils ont l'impression d'être gagnants en tout cas, ce qui est à mon avis pas le cas, mais je pense que c'est plus facile et ouais. de ne pas se remettre en question. En fait, on boucle souvent là-dessus, mais au final, c'est quand même plus facile de ne pas se remettre en question. Donc oui, à nous de bosser.
Et toujours.
Et
toujours
c'est peut-être plus. Pour ça. Et c'est peut-être pour ça que c'est pas juste, mais c'est peut-être pour ça que je suis encore plus déçue quand je vois une meuf qui est à la tête d'un projet dans lequel il va y avoir plein d'hommes. Enfin, tu vois en termes de décision, elle aurait pu aller chercher des. Et je suis plus déçue alors que c'est pas bien. Enfin, c'est pas. Je suis pas à être plus déçue, mais c'est parce que je me dis ouais, mais si nous on le fait pas le taf,
eux
ils le font pas de toute façon.
Oui.
Oui, ce qui est le cas par exemple dans mon groupe, ce que je vous disais en arrivant, c'est que moi, dans mon groupe, il y a 5 mecs et puis il y a toute mon équipe technique qui est composée d'hommes. Donc c'est vrai que. Et moi, c'est pas moi qui décide.
T'es pas décisionnaire.
Non, je suis pas. Il y a un leader dans l'impératrice.
Comment on choisit qui est leader?
C'est lui qui a créé le projet.
Ok.
Donc en fait, moi, je suis arrivée. Le projet est né en 2012 et donc c'était un groupe instrumental qui s'appelait l'impératrice au début avec que des mecs. Et moi, je suis arrivée en 2015. Donc
parce qu'ils cherchaient une voix ou...
C'était plus un hasard en fait. Okay. Mais on s'est rencontrés à un moment où les gens lui disaient ce serait bien d'avoir une voix. Mais lui, il n'était pas très chaud. Et puis en fait, on s'est rencontrés, il avait écouté mes voix sur un autre projet, il aimait bien. Et voilà, c'est parti comme
donc,
ça.
Donc l'impératrice existait avant toi
ouais.
et c'était que de l'instru.
Ouais, okay. Il y avait des featuring un peu, ils avaient fait okay. un featuring ou deux. Mais l'idée c'était vraiment d'avoir un groupe instrumental, ouais. C'était leur credo.
Parce que souvent, on a l'impression que la personne qui chante, c'est le visage du groupe. Donc, en fait, les gens doivent avoir l'impression que c'est toi. Enfin, ils assimilent pas le fait que tu sois la leadeuse.
Si, mais c'est ouais. ça le problème, en fait.
Surtout que ça s'appelle l'impératrice.
Oui,
on se dit, c'est vraiment
c'est terrible. ouais. Mais c'est vraiment très compliqué à gérer parce que les gens, oui, font très vite l'amalgame. En plus, sur scène, je suis forcément devant. Oui. C'est moi qui parle aux gens. C'est moi qui chante. Donc, il y a un truc un peu facile de... Bon, bah, l'impératrice, c'est la meuf. Et ça, on essaye de lutter contre ça avec tout le reste du groupe en permanence. Mais c'est vraiment très compliqué parce que même les journalistes, ils font très vite le raccourci. Les photos aussi, quand on doit faire des photos, ils font « Ah non, vous êtes 6, non, trop chiant. Ouais. On peut pas faire des photos avec 6 personnes. » Tu peux complètement faire des photos avec 6 ouais, personnes. Mais bon, les gens, ça les fait chier. Du coup, ils veulent la chanteuse. Donc, c'est vrai que c'est assez... T'as l'impression de devoir tout le temps te battre et tout le temps dire « Non, alors, ouais. c'est un groupe. » Même ouais. les gens qui s'adressent à nous, qui nous envoient des messages, par exemple, ils disent « Tu
ouais. ».
Genre « Flore, oui. tu ». Non, 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 en fait, on est 6 là-dessus.
Et c'est vrai que le titre, le nom de groupe, il porte à confusion. Ouais, prête à confusion, je crois. On dit les deux.
Porter à confusion.
Ouais. Prêter à confusion.
Non, je crois que c'est
porter des vêtements, ça c'est sûr.
Prêter des vêtements aussi, mais ça dépend si t'es chaud. Ça dépend.
Et en même temps, ça veut dire quoi d'être leader d'un groupe? Finalement, c'est quoi la différence de votre boulot?
C'est lui qui fait un peu la direction artistique au sens où tout le monde compose, c'est parti. Donc genre moi je compose mes lignes de voix et j'écris les textes. Par exemple Charles, quand tout le monde propose des idées, c'est lui qui choisit les trucs. Il
tranche.
Ouais voilà. Sinon effectivement quand t'as 6 personnes qui s'expriment en même temps, c'est un peu trop le bordel quoi. Donc on a au moins un référent. C'est un peu notre daron quoi.
Okay.
Bah et comme moi pour toi Camille quoi, je suis la leader du groupe. Ouais, je sais pas si t'avais remarqué depuis le début.
Tranches.
C'est moi qui tranche.
La direction artistique, c'est toi quoi.
Non, nous en plus on est deux pour trancher. Ouais. C'est soit on est d'accord, soit on n'est pas d'accord. Il y a deux leaders.
Ce qui est assez simple.
Non, c'est pas si simple parce que des fois on est là, genre il faudrait quelqu'un parfois qui dise bon je tranche parce que nous sinon on est là.
On se bat pour notre bout de gras.
Tu penses ça?
Bah Minette sinon.
Non mais j'ai l'impression du coup c'est.
Il y en a toujours une à l'unanimité.
Oui, soit ça, soit on se dit bah c'est qu'on le fait pas. Si une n'est pas d'accord au final. Ça veut dire on le fait pas puisque on est que deux donc. Et attends, en termes de chronologie, donc c'est vrai qu'il y a quand on fait des recherches pour savoir un peu qui tu es, notamment sur internet, ce qui ressort énormément, c'est la prise de parole que tu avais faite sur C'est à vous, c'est ça? Peut-être à plusieurs endroits.
Mais c'est drôle parce qu'on m'a dit ça récemment. On m'a dit c'est le premier truc qui sort quand on. Parce que j'ai pas l'habitude de taper mon nom sur Google, j'avoue.
Tout ce qui buzz un peu, c'est le premier truc qui sort.
Il y a aussi Jean Benguigui qui sort.
Mais ça c'est l'angoisse.
Mais c'est pas ton père.
Mais non, ce n'est pas. Mais non, mais meuf, ça c'est vraiment. C'est des potes, mes sœurs qui se foutaient c'était trop ma gueule qui disait que tu tapes Florent Van Guy père et il y a Jean Van Guy qui sort direct et j'étais là mais non. Mais c'est horrible en plus parce que ça veut dire quoi, genre j'arrive là parce que forcément je suis fille de quelqu'un, enfin c'est, je trouve ça affreux quoi. Et en plus je suis désolée mais j'aime pas trop Jean Van Guy, je trouve pas que ce soit un acteur vraiment bon.
Il a son public, disons.
Exactement. Non, pas du tout. Mon père est graphiste et voilà.
Je me demandais en termes de... Donc, tu as pris la parole publiquement pour dire que tu avais vécu toi-même des violences sexistes au sein du milieu musical et que tu soutenais le... C'était Musique Tout, qui est sorti.
Tout à fait.
Et chronologiquement, c'est avant ou après que tu intègres l'Impératrice ?
Cette prise de parole, tu veux dire ? Ouais. C'était bien après que j'ai intégré le groupe, c'était en 2020. Donc,
Musique Tout, en fait, c'est très récent.
Ouais, Musique Tout, c'était en 2020.
Oui, effectivement.
Donc c'était bien après. Après, c'était pour parler justement d'une expérience que j'ai vécue juste avant l'Impératrice. Donc, qui était un groupe voilà, qui m'a viré de façon assez sale. Mais ce qui est dommage, ouais, c'est que ça ressorte comme ça. Effectivement, en premier, si on tape mon nom, parce que bon, j'ai pas envie d'être définie par ça, même si.
Tu es autre chose que ça, bien sûr.
Ouais, voilà, même si pour moi c'était important, effectivement, de faire cette prise de parole. Oh, coucou le chat. de prendre la parole et de. Parce que je connais tellement de femmes de ce milieu qui osent pas le faire, et pour plein de raisons, qui sont des bonnes raisons aussi. Hein. Mais je me suis dit, bon, moi je me sens le faire. Voilà, on y va.
Et quand tu le fais, ça agite ton groupe, qui est du coup composé d'hommes. Ou t'as peur par rapport à eux, ou c'est clair, ou tu fais ce que tu veux en fait fin...
Oui, alors je fais ce que je veux. Après, ils ont sur le coup, ils me soutenaient, mais ils ont eu un peu peur que les gens croient que je parle de l'Impératrice.
Ah.
Parce que je nomme pas évidemment le groupe dont je parle dans l'entretien, mais au-delà de ça, à part ça, non, ils m'ont soutenue vraiment à fond. Parce qu'il y a eu des moments très gênants. Il y a eu un moment où 3 mois après cette prise de parole, on s'est retrouvés à jouer dans un festival qui était organisé par Culturebox, où on partageait l'affiche avec eux. Voilà. Et là, c'est même mon label qui a dit, ouais. Attendez, Flore, elle vient d'aller parler sur ce type. Bon, sans le nommer, certes, mais là, c'est quand même pas OK. Ils vont se croiser, ils partagent l'affiche. Donc, bon, heureusement, ils m'ont vachement soutenu là-dessus. Mais oui, voilà, c'est vrai que oui, j'ai pris la parole pour ce truc-là. Ouais.
Et en même temps, Musique Tout, ça a fait des... Il y a eu des conséquences, c'est...
Non, c'est un peu...
Ce qui s'est passé, quand il y a eu des révélations et tout.
Bah,
à part le nombre de témoignages.
Où est-ce qu'il y a eu des conséquences, ouais, de toute façon, Musique Tout, mais en dehors de ça, sinon c'est quoi les conséquences?
Parce qu'il y a eu plein de témoignages, en gros.
Oui, voilà, la libération de la parole, en vrai, c'est ça la première conséquence, j'ai l'impression. Enfin, je sais pas, je veux pas m'embarquer.
Oui, il y a eu... Bah, en fait, c'est né en 2020, et en plus, ils avaient créé cette espèce de plateforme, en fait, où tu pouvais remplir un formulaire, et ils ont récolté énormément de témoignages, et ils se sont rendus compte, alors j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais qu'il y avait une grande majorité des témoignages qui étaient ciblés sur 10 mecs. Donc, c'était vraiment assez troublant. Et après... franchement, il s'est pas passé grand chose par rapport à ce qu'il aurait pu se passer, quoi. Ouais. Mais c'est aussi parce qu'il n'y a pas eu de suivi vraiment de la part des journalistes. Enfin, beaucoup de peur, je pense, parce qu'il y a beaucoup d'artistes parce qu'il n'y a pas que des artistes qui sont concernés par ça, il y a aussi des professionnels de la musique, beaucoup, qui sont très bien implantés. Donc, franchement, impossible à déboulonner. Il faudrait vraiment un gros coup de bazooka, quoi. Mais personne n'est prêt à faire ça. Et non, malheureusement, en plus, maintenant, ça s'est terminé, Musique Tout.
Ça veut dire quoi que ça s'est terminé ?
Bah, ça veut dire que le groupe qui gérait le compte et qui gérait tous les témoignages et allait recouper les témoignages, parce que c'est un travail assez énorme, ils ont arrêté parce qu'ils n'étaient pas suffisamment, je pense, nombreux, et puis ils n'en pouvaient plus, quoi. Et dans le lot, il y avait d'ailleurs Rose Lamy qui fait
pour la bagarre.
Je pense que aussi elle est sur tellement de fronts, c'est compliqué, quoi. Mais je pense qu'ils voulaient surtout que quelqu'un reprenne le flambeau, enfin que des gens reprennent le flambeau. Et pour l'instant, il y a pas vraiment eu de suite. Mais j'espère pouvoir que ça puisse avancer, parce que je connais tellement il y a tellement de doses dans ce milieu, c'est terrible en fait. Et il y a tellement de trucs que tout le monde sait.
Même quand on n'est pas dans le milieu de la musique, moi j'en ai entendu plein. Des doses en cours, lui, il y a eu 10 meufs qui ont parlé sur lui. Totalement différentes, qui se connaissent pas forcément entre elles. Enfin bon.
Mais oui, et le nombre de trucs aussi où on me dit ça arrive, ça va, il y a une enquête en cours, va sortir.
C'est ça. Ouais.
Mais ça, il y a des trucs, ça fait 2 ans que je l'entends. Ouais. Et sur des mecs qui ont depuis sorti des disques, pas de problème, ils sont toujours là, on les voit. Ouais. Et je me dis, mais il se passe quoi en fait.
Ouais, mais nous c'est l'éternelle question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il faut, enfin quand on sait quelque chose, quand il y a plusieurs meufs et qu'elles sont toutes d'accord, est-ce qu'il faut un peu détourner la justice et faire sa justice sur les réseaux, mais risquer voilà des
procès pour diffamation.
Exactement. Comme ça s'est passé avec moi à la Squale, du coup ça s'est vraiment passé sur les réseaux, ça n'a pas attendu ça n'a pas attendu une affaire en cours qui dure 2 ans ou 3 ans et on voit jamais le bout. C'est vraiment une meuf qui a déclaré, elle a pris sur elle, elle s'est jetée en pâture quoi, genre allez moi j'ai un truc à dire sur moi à la Squale, et derrière par chance entre gros guillemets, il y en avait 15 autres, mais c'est parce qu'elle le savait, ça elle savait qu'il y avait d'autres meufs qui allaient en parler, 15 autres meufs bim qui déclarent le truc derrière, et du coup bah en fait le mec n'a pas le temps ou le courage, j'en sais rien, je sais pas où en est cette affaire, mais de porter plainte pour diffamation contre 15 meufs, tu vois. Mais bon, faut oser le faire au départ, faut pas, enfin voilà, c'est hyper flippant quoi. Et puis après toi t'es cataloguée comme la meuf qui a balancé le mec.
Ah mais bien sûr, et puis en plus moi à la Squale, enfin tous ces artistes qui sont en major, ils ont une armée d'avocats derrière. Et
d'ailleurs, il est toujours pas en prison.
Bah il est toujours pas en prison, je crois qu'il y a un nouveau truc qui est sorti là, récemment il me semble. Donc on verra, mais non il est pas en prison, je pense.
Non, voilà. Il est à Dubaï, je crois.
Ouais, c'est ça.
C'est vrai.
Il doit être malheureux, comme tout.
Il a juste fait une petite pause de réseaux sociaux, je pense. Voilà. Ce genre de délire. Une petite détox.
Ouais, il en a profité.
C'est ça.
Pour se faire du bien à la tête. Ouais. Ok. Et du coup, pour revenir vite fait sur ton parcours, est-ce que toi, t'as toujours été chanteuse?
Non. Moi, je voulais pas vraiment... Enfin, j'avais pas vraiment prévu d'être chanteuse à la base. Moi, j'avais fait des études de cinéma documentaire. Donc je travaillais dans la distribution du cinéma documentaire et j'étais au conservatoire de jazz dans le 9e arrondissement à Paris. Donc c'est quand je suis arrivée à Paris, donc vers mes 20 piges à peu près. Et en fait, ouais, je faisais du jazz et j'étais dans le documentaire, mais en même temps, le documentaire, c'est un milieu, moi, qui me plaisait beaucoup, mais qui est très déprimant parce qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de... Enfin, c'est terrible, quoi. Ouais. Tout le monde... Encore, ça va un peu mieux aujourd'hui, je trouve, mais il y a à peu près 10 ans, putain, ça me rajeunit pas, c'était vraiment un peu la...
Poussiéreux.
Ouais, c'est ça, c'était un peu la loose, au sens où moi, je me battais pour que des films, des documentaires sortent en salle et puissent être vus en salle, mais alors en salle, il n'y avait personne qui allait voir des documentaires. Donc, il n'y avait même pas encore ce truc vraiment de regarder des docus sur Netflix et tout.
Et oui,
oui, c'est vrai que ça a peut-être mis au bout du tellement jour, mainstream, les docus à Netflix.
Si t'habitais pas à Paris, déjà, moi, là d'où je viens, il n'y a même pas de docus qui sont diffusés dans les cinémas. En fait.
À l'ancienne, les docus, c'était juste Arte. Hein. Enfin, mais c'est grave, pour ça. Moi, c'était...
Ouais.
Et puis, il y avait des docus très bien, mais moi, je le voyais vraiment d'un œil un peu poussiéreux, un peu déprimant. Ouais. Oh, un docu alors qu'en vrai, il n'y a rien de mieux que les docus. Et d'ailleurs, les docus Arte sont trop bien. Voilà, si je peux me permettre, c'est trop cool. C'est trop, trop bien.
Mais c'est vrai que c'est venu assez tard. Et du coup, à cette époque-là, je me disais, bon, c'est quand même hyper, hyper ingrat. Et du coup, j'ai commencé à faire... Enfin, je faisais beaucoup de jazz depuis que j'avais 15 ans. Et puis, très naturellement, j'étais au conservatoire, j'ai rencontré des gens qui m'ont amené dans ce fameux groupe dont je me suis fait virer. Et j'ai chanté un peu avec eux, j'ai enregistré des morceaux avec eux. Et après, je suis arrivée dans l'Impératrice, donc j'avais 23, donc il y a 7 ans.
Trop bien.
Donc, t'es devenue chanteuse.
Bon, en fait, je pense que quand t'es... Quand t'es musicienne,
tu faisais quoi ? Tu fais des instruments ? Quand tu disais que t'étais au conservatoire de jazz, tu faisais des instruments ou tu chantais ?
Non, je chantais. J'étais en chant. Après, okay. T'as un cursus assez complet au conservatoire, donc je faisais aussi pas mal de techniques et de solfège et tout ça. Mais j'étais en chant. Je suis très mauvaise instrumentiste, franchement. Je sais bidouiller vite fait des
petits
synthés.
Tu fais un petit peu
mais...
du piano ? Ouais,
j'aime bien tous les petits synthés, j'aime bien. Ouais. Mais sinon, vraiment, je suis nulle. Non, mon truc, moi, c'est plutôt de faire des voix, quoi.
Ouais. On va passer au bol à questions, donc les questions chill, les questions deep et les petits jeux.
Ouais. Alors le bol à jeu, il fait pitié parce que vraiment il y a 3 paplards, mais en vrai
ils sont bien. Okay.
Ouais, on n'est pas à l'abri de s'en payer une tranche quoi.
Est-ce qu'on peut entendre ta douce voix nous faire un petit jingle qui annonce cette catégorie bol à questions?
Oh mon dieu, vous faire un jingle. Ah oh, j'avais oublié cette histoire. Ah, c'est quoi? C'est faut dire le bol à question.
Tu dis ce que tu veux.
Ce que tu veux autour
faire
du bol à question.
Du beatbox. Je dis ça tout le temps dans l'espoir qu'un jour quelqu'un nous fasse.
Ok, est-ce que je peux faire un jingle ASMR ou pas?
Bien sûr.
C'est le bol à questions.
Pas mal.
Moi, j'adore, je suis fan.
C'est le premier qu'on nous fait en ASMR.
Tout ça pour pas chanter dès le matin. Ok.
Tu peux, c'est toi qui choisis.
Donc tu pioches. Il faut choisir les catégories là. Voilà, ok. Voilà. Deep chill. Alors, en fait, on va pas partir sur du deep direct. Hein. Bon, après,
on a eu toute une phase d'invités qui était très très deep. Et là, ah ça ouais, fait un moment, tu sens. Je sais pas si c'est à l'arrivée des mauvais, tu sais, du temps.
Ouais, on peut le faire selon les saisons.
Je crois que en été, les gens voulaient un peu de deep pour équilibrer. Et là, vu qu'il fait un peu moche, enfin, ça ne marche pas parce qu'aujourd'hui,
là aujourd'hui, il fait très beau
et qu'on va être dans une vague de chaleur parce que la planète se meurt. Mais globalement, on veut du, tu sais, du chill pour se remonter le moral. Ce qui fait nuit à 19h.
Oui, ça par contre.
Ah ouais. Oh là là, le film qui t'a le plus marqué. Je pense que le film qui m'a le plus marqué dans ma vie, ça veut dire le film que j'ai le plus regardé ou le film qui m'a le plus fait un choc quand je l'ai vu. Je pense que le film qui m'a fait le plus gros choc quand je l'ai vu, c'est Paris, Texas, je pense. Parce que choc esthétique énorme.
Qu'est-ce ? Je ne connais
c'est
pas.
Un vieux,
pas.
C'est un vieux film.
C'est un film Oh, c'est date de quand ? Tiens, bonne question. Je pense que ça doit être années 80. Mm-hmm. C'est un film très très beau. Bah franchement, je vous
c'est
recommande.
Un American.
C'est Wim Wenders. Il est très long, donc faut prendre le temps, mais c'est vraiment un film extraordinaire et la musique est ouf. Mais sinon, franchement, le film que j'ai plus regardé dans ma vie, c'est Les Demoiselles de Rochefort, je pense, de Jacques Demy. Franchement, je connais vraiment tout le film par cœur. Moi, c'est mon film, bref. Et vous, c'est quoi ?
Moi, si je dois dire le film qui m'a le plus marqué, mais du coup, c'est vraiment loin d'être mon film, bref. C'est juste que les images ne s'enlèveront jamais de ma tête. À mon plus grand malheur, c'est Salaud de.
Ah bah oui.
Ah ouais. Oula.
Pasolini.
De Pasolini. Non, mais pourquoi j'ai regardé ça en fait ?
Merde.
Je m'en remettrai jamais. J'ai regardé ça à 14 ans et je.
Oh non, mais pourquoi t'as regardé ça à 14 ans ?
Mais parce que tu sais, genre.
Un samedi
c'est un
soir,
peu, ouais, c'est avec un peu les cops.
Ah voilà. Ouais, d'accord. Ah ouais, avec tes potes, t'as regardé
ça. J'ai regardé ça avec une copine, Lou.
Merde.
Oh là là. Non, mais c'est trop. Enfin, c'est répugnant.
C'est pas adapté du tout à vous.
Non, déjà, voilà, en fait, je pense qu'il m'a marqué notamment parce que je l'ai vu à 14 ans, mais je pense que tu le vois à 30 ans, c'est tout aussi marquant. Ambiance.
C'était l'objectif, de toute façon, non ?
Oui, bien sûr.
Esprit, oui. Il a fait ça, évidemment. C'est hyper.
Non, mais puis vraiment, ça me taraude, quoi. Ces jeunes qui jouent ces rôles-là, quoi. Enfin, vraiment.
Oui, parce que c'est pas. Oui,
en
c'est
plus,
une fiction.
Tu vois. Enfin, c'est vraiment des gens qui jouent ces rôles-là et ils avaient pas tous 18 ans, il me semble, là, au moment de jouer ces rôles. Donc, je suis genre. Et puis, quand bien même, 18 ans. Enfin, 18 ans, jouer les rôles de gens qui se mettent à quatre pattes et qui mangent du caca. Non, mais.
On sent qu'il y a un vrai traumatisme.
Ah ouais, vraiment, il m'a traumatisé. Après, si je dois choisir.
Ne le montrez pas à vos enfants.
Ah non, ah non, vraiment.
Ne regardez pas avec vos enfants.
Tu vois, mon chéri, c'est ce qui se passera si tu ne respectes pas les consignes de la maison. Horrible.
Tu finis pas tes épinards, tu mangeras du caca.
Non, c'est horrible. Et pour celles et ceux qui l'ont pas vu, désolé, on l'a même pas pitché, mais enfin,
c'est salaud. Les 12 journées de Sodome,
les 120.
Encore plus long que ça.
Si seulement c'était 12. Bah non. 120 journées de Sodome. Non, mais c'est une bande de vieux bourgeois fascistes qui ça se passe en Italie dans les années là à l'ancienne et c'est et qui
en fait c'est
qui recueille des jeunes.
En fait c'est Squid Game mais version ancienne.
Ouais mais non, c'est pas parce que c'est il y a pas des jeux où il n'en restera qu'un, c'est juste c'est pour leur distraction, c'est pour mais oui, c'est un peu le
en fait dans Squid Game, c'est des vieux blancs
qui
se distraient.
C'est pour distraire des vieux bourgeois sadiques de ouf. Et ils les regardent toute la journée. Il leur impose de faire des trucs horribles, genre de se comporter comme des chiens, de baiser entre eux, enfin bref, c'est en fait.
En plus, ça dure assez longtemps.
Ah, c'est long. Bah, comme 120 jours. Vraiment, le film dure 120 jours en vrai. Et après, si je dois choisir dans un de mes films, bref, mais je pense que ma réponse change tous les jours. C'est juste que là, je l'ai revu et ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. Ça
Merlin l'Enchanteur.
Bonbon. Complètement Merlin l'Enchanteur. Mais Eternal Sunshine of the Spotless Mind, que j'aime trop. Et là, je l'ai revu il y a deux jours et ça faisait genre au moins 3 ans que je l'avais pas vu, donc ça m'a fait un petit bonbon. Voilà, ça c'est vraiment un de mes films préférés avec Jim Carrey et Kate Winslet. Voilà.
Alors moi, un peu comme toi, un des films qui m'a le plus marqué dans le sens extrêmement négatif, parce que vraiment j'étais là genre ah mais je comprendrais jamais rien au cinéma si ça.
The Tree of Life,
évidemment.
Ah c'est vrai.
Évidemment.
J'ai deviné.
J'étais devant l'écran.
J'ai pas
souffert.
J'ai rien compris. Mais rien.
Mais parce que en vrai, pardon, mais ceux qui disent j'ai tout compris, vous mentez à vous-même d'abord, et vous nous mentez, et vous mentez à Terrence Malick, et à cause de ça, il continue à faire des films horribles. Non, vraiment, c'est. Oh, je. ça m'a marqué ouais, dans ce sens-là où vraiment je me dis ah donc on peut mettre un fond d'écran Windows en fait pendant 20 minutes et les gens ils sont là mais waouh là non ça, c'est
le déni
c'est ça c'est pas possible
ouais, déni pas total bien sûr je suis
vraiment
d'accord
vraiment pas d'accord
moi j'ai tenu 15 minutes je crois hein, déjà et c'était long
vraiment très long et après je dirais un deuxième truc qui m'a vraiment marqué au cinéma c'est quand je suis allée voir Titanic au cinéma quand j'étais petite quand c'est sorti donc en 91
ah oui t'étais petite du coup
Non, 91, n'importe quoi, j'avais 2 ans. Je suis allée voir aussi, je suis allée au cinéma à 2 ans, ouais, 3 heures, n'importe quoi. Non, c'est sorti en 2000. Bon, je sais plus, mais en tout cas, je suis allée le voir au cinéma. Et en fait, dans ma tête, ça durait 3 heures, tu vois. Et je me disais, oh, 3 heures un film. Alors que je pense que ça existait déjà, mais ça nous paraissait
ça
un truc fou. Bah, je me disais, j'avais l'impression de passer une journée au cinéma. Enfin, en fait, tu sais, il y avait un truc de quand t'as 10 ans. Passer 3 heures au cinéma, ça me semblait mais un truc de malade. Genre, ouais. J'avais l'impression qu'il avait, qu'il était, tu sais, quand t'es hyper en dehors des normes. Je sais plus quel est le mot là.
Hors
hyper,
norme. Original.
Ouais,
spécial.
Un mot qui finit en if.
En if.
Ouais, c'est pas grave.
Un récif. Non,
je l'ai pas. C'est ça qui t'a marqué, c'est le fait qu'il dure 3
ouais,
heures.
Bah après, non, mais le film
c'est
en soi.
C'est pas genre la scène de cul alors que t'étais petite.
Avec, j'étais sûrement avec ma mère d'ailleurs.
Mais oui,
bah oui, j'allais pas au cinéma.
Moi, la première fois que j'ai vu Titanic, c'est avec maman et j'étais là, il y a du cul.
Mais pareil.
Alors, on voit pas tant que ça,
rien.
On voit une main sur
la
vitre,
mais
rien que bien assez.
La main sur la vitre, c'est cochon quoi. Quand t'es avec tes parents, t'es là,
oui, il transpire dans une voiture.
Tout le monde l'a refaite après quand. Moi, on n'arrêtait pas de la singer, la scène.
Oui, bah, bien sûr.
La scène de la main sur la buée.
Mais oui, en fait, après, c'est extrêmement marquant parce que je pense que c'est un des premiers films que je vois où à la fin, le mec, il meurt. Enfin,
oui,
genre, c'est d'une tragédie. Enfin, c'est hyper tragique. T'es là genre, non, mais je veux le revoir pour peut-être qu'il va pas mourir la fois d'après. Enfin, t'as envie qu'il soit pas du tout mort.
Puis c'est Leonardo DiCaprio à l'époque, quoi.
Ouais, aussi. Bah oui.
Une frappe
atomique,
quoi.
Ah oui, oh là là. Bah, on fait difficilement mieux.
C'était l'époque de sa flamboyance.
Ah ouais, vraiment.
C'était avant.
Oui,
ouais. Aujourd'hui, oh là là, il me plaît pas aujourd'hui, c'est impressionnant. Vraiment, je vois DiCaprio, je suis là, genre, en acteur, passons, il est super, enfin, m'en fous, mais physiquement.
Oui, puis surtout, ces vieilles histoires
de sortir qu'avec des filles de
20 ans. Ah oui, c'est
voilà.
Vrai, putain, ça
quand même,
oui, sortir, ça, bien sûr, il sort qu'avec des ados. Enfin, oui.
Non, c'est.
Qu'avec des moins de 25.
Il en a combien, 50
Ouais, en 47
ça. Ouais, c'est ça.
Oui, il s'approche des 50 piges. Oui, non, c'est chiant. Vous nous saoulez, vous nous agacez en fait. Vous nous agacez. Sortez avec des filles de votre âge, bon sang. Enfin, c'est peut-être pour ça aussi que ça marche pas et qu'ils se séparent. Enfin, ah bon, sans blague, vous avez 25 ans d'écart, vous avez peut-être pas grand chose à vous raconter. Et là, on va avoir un commentaire. Bah, moi, mes parents, ils ont 10 ans d'écart, ils sont en train de faire bien. Oui. Oh, bon. Oh.
Non, mais lui, c'est systématique. C'est vraiment ça qui est fou, c'est que c'est vraiment un pattern qu'il a reproduit.
Ouais,
je sais pas si vous avez lu la BD de Lewis qui en parle. Et c'est génial. Moi, je me suis dit, mais
c'est la rouge rose s'évanouit, je sais pas quoi.
La rose la plus rouge
s'évanouit.
Ouais, un truc comme ça. S'épanouit, je crois.
S'évanouit.
Ça veut pas dire la même chose, du coup, je sais plus. Mais oui.
Quelque chose comme ça. Désolée pour le titre, mais oui, effectivement, ce livre est trop bien. Cette BD de Liv Strömquist, c'est trop bien. Et il y a vraiment. C'est tellement sarcastique sur Leonardo DiCaprio qui change pas de tête à chaque ah, c'est marrant.
Bah, globalement, on vous conseille toutes les BD de Liv Strömquist qui sont vraiment trop stylées.
On fait
plein de conseils en plein milieu.
Ça, ouais.
Inattendu, c'est la surprise. Oh, c'est la surprise.
Allez, on est parti de Salo et les 120 journées de soda jusqu'à Liv Strömquist, c'est quand même pas mal.
C'est vrai. Grave.
Évolution. Gros écart.
Est-ce qu'on va dans le. Allez, on va dans le deep.
Allez.
On va dans le deep là. C'est parti. Alors, oulala.
Subversif.
On te donne beaucoup d'argent.
C'était ça le mot que je voulais dire tout à l'heure, pardon.
Subversif, ah oui.
Je l'ai trouvé
affirmatif,
subversif.
Non,
voilà, ça finissait en if, pardon.
Et donc la question commence par on te donne beaucoup d'argent, donc déjà j'aime bien. On te donne beaucoup d'argent pour créer une entreprise de ton choix, sans condition. Tu fais quoi? Alors, entreprise, ça, vous vouliez dire quoi par entreprise?
Ça peut être une fondation, une asso, enfin quelque chose.
Pour créer
mais
un truc.
C'est pas j'offre des cadeaux à ma mère. Enfin, tu vois, c'est vraiment une société, une entreprise, une asso, une fondation, enfin, quelque chose qui va faire quelque chose derrière. Quoi.
Bah, franchement, ça va être très bateau comme réponse, mais moi, vu que je suis engagée dans la cause des femmes, dans la musique, donc je pense que je créerais déjà peut-être, je sais pas, une fondation pour mettre en valeur, mettre en lumière, du coup, avec plein d'argent, les femmes de ce milieu. Et peut-être même toutes les femmes en général. Ouais, franchement, parce que je trouve que c'est mine de rien, l'argent c'est con, mais
ça permet de faire des choses.
Voilà, ça aide pas mal dans ce genre de truc parce que par exemple, quand on va voir des expos qui sont donc il y a beaucoup d'expos de femmes maintenant, heureusement ça commence un peu à changer et tu vois s'il y a eu de l'argent dans l'exposition, bah, c'est bien présenté, il y a plein de trucs, c'est, hyper, oui, c'est dans envie. Un lieu prestigieux, ça donne envie, donc les gens vont voir le truc. Mais... Et pour la musique, c'est pareil. Les femmes, si elles se retrouvent toujours à jouer dans des tout petites salles tout pétées avec pas d'argent, et... donc personne ne va les voir. Donc, ouais, moi, je...
donc tu ferais quoi comme une des actions de cette fondation, par exemple?
Une des
actions. Des concerts, enfin, tu vois, concrètement
bah, je pense que... C'est marrant parce que je suis marraine d'un organisme qui fait déjà ça, mais je pense que je le ferai en encore plus grand. C'est je donnerai de l'argent à des musiciennes émergentes qui galèrent, quoi.
Tu fais une bourse, quoi.
Ouais, une espèce de bourse. Mais en plus, ouais, ça existe déjà, il y en a plein déjà. Mais
tu le feras avec beaucoup plus de thunes.
Ouais, voilà. Je ferai plus de thunes et puis il n'y en a jamais ouais, trop, je pense. Oui,
avant qu'on arrive à l'équilibre.
Ouais, c'est ça. Donc je pense que ouais, je donnerai plein de thunes à plein de meufs qui galèrent et qui peuvent pas, qui sont obligées de faire 12 000 tafs en même temps pour pouvoir être musicienne. Et alors qu'elles auraient plein de trucs à offrir, je pense.
Tu ferais quoi, toi, Kamtar?
Moi, c'est très réfléchi.
Ah ouais, t'as déjà...
Donner de la thune, vite. Alors, je suis engagée dans plein de thématiques, donc j'aurais envie de faire des tonnes de choses, mais il y a un truc qui me rembarge parce que je vis à Paris et que je pète un plomb de tous ces locaux qui sont vides à Paris, que ce soit des apparts qui sont possédés par des Qataris et qui viennent deux jours dans l'année, tu vois, ou que ce soit les bureaux, des bureaux qui sont tout vides la nuit, parce qu'en fait, il n'y a personne, et le nombre de gens qui dorment dehors ou de femmes qui n'ont pas de foyer pour aller avec leurs enfants, etc. Et donc, je voudrais faire un système de logement la nuit, enfin, c'est-à-dire qu'au moins pour la nuit, donc, mais je sais qu'il faudrait un système de sécurité, un système de nettoyage pour que ça fonctionne, parce que sinon, ça fait trop peur aux gens. Et voilà, de réquisitionner, en gros... des espaces pour créer au moins des foyers pour la nuit, pour que les gens puissent dormir en sécurité. Et après, il faudra à chaque fois qu'il y ait un système de nettoyage, enfin un système, une équipe de nettoyage le matin pour restaurer les lieux, et de sécurité, parce que sinon ça peut vite partir en sucette. Voilà,
je suis morte, elle a tout prévu.
Mais parce que tu me donnes une bourse, je comprends. En fait, c'est parce que je ne comprends pas que ça n'existe pas. Il y a évidemment mille autres choses, mais tu sais, je marche dans Paris et je me dis, mais attends, mais ce grand espace, rien que vers chez moi, il y a genre... tu sais, quand on va chez moi, il y a la sécurité sociale ou je sais pas quel bâtiment là. Et c'est le hall d'entrée, mais il fait 20 fois mon appart. Et il est vide toute la vie. Tu vois, je me dis, putain, mais tu ouvres les portes la nuit, tu mets des lits et des gens qui sécurisent. Parce que je suis pas bête. Je sais que les gens qui dorment dehors ou quoi, ils sont désociabilisés. C'est très compliqué, voilà, les remettre ensemble et tout. Mais il y a tellement d'espace. C'est pas possible qu'on laisse encore des gens dormir dehors. Et j'y ai beaucoup réfléchi parce que je déteste la phrase de dire, mais comment ça se fait qu'on laisse les gens dormir dehors en France? Bah, parce qu'on réfléchit pas.
Parce qu'on le fait.
Oui, parce qu'on réfléchit pas à des vraies solutions, tu vois. Et ça créerait de l'emploi et tout. Enfin, voilà, je vais faire ça.
Envoyer la maille. Récite ton IBAN.
Pour faire vos dons, je vais voter pour le meilleur projet. Non, voilà. Je trouve que ouais, ça, c'est assez précis dans ma tête.
Moi, je sais pas quoi, quand, comment et par quel... Enfin, j'ai pas la structure, mais je fais un truc autour des règles, l'endométriose, mais vraiment, mais 100% dédié à ça. Ôtez-nous ces règles de merde, faites en sorte qu'elles font plus mal, faites pas des pilules flinguées.
Bah, la recherche, en fait. Recherche, tu crées une équipe de recherche.
Tu crées une équipe de recherche,
ouais. Carrément.
Dédiée à 100% à ça. Il n'y a pas de à côté, nanani, nanana, les mecs ils peuvent plus bander et tout ça, je m'en fous. C'est 100% sur les règles. Trouver des solutions pour la moitié de la population là, qui souffre.
Nous, ce bordel.
Parce qu'il y a des gens qui font des recherches pour les mecs qui
Bah, tous les médicaments,
bien sûr.
Tous les Viagra, tout ce qui existe. Ah oui.
Vous croyez qu'il y a encore des gens qui cherchent là-dessus et tout? Ouais, c'est sûr.
Bah, c'est sûr.
Non, bien sûr. Bah, ça, ouais.
Et il y a genre. Il y a masse de médicaments pour érection, pour bonne érection.
Ou pour les boutons de zizi, c'est Noémie Delattre qui disait ça.
Oui,
il y a plein il y a des dizaines de trucs pour les boutons de zizi, mais nous pour les règles, il n'y avait pas un médoc à l'époque. Je crois que c'était dans son spectacle Féministe pour Hommes qu'elle parle de ça, mais il n'y avait pas un médicament dédié.
Mais
aujourd'hui,
t'as pas un.
Bah t'as Nurofem.
Ah oui,
c'est vrai. Et la boîte est rose. Enfin, tu vois,
c'est
tout.
Donc c'est
juste
Nurofen,
mais bien sûr.
Oh là là.
Et Dismé calme, je crois, il y en a deux, trois.
Oui, mais ça là,
c'est un peu des plantes de merde.
Ah non, mais ça c'est juste
faut
des
pas
plantes.
Me lancer sur le sujet.
C'est juste des plantes, tu vois. Voilà, bah,
non, mais t'as raison. Moi je veux. Oh, non, ah, moi vraiment... je suis d'accord.
Non,
évidemment.
Mais on arrête. En fait, je voudrais qu'on mette pause sur l'humanité.
Oui.
Vraiment. Tout le reste ne m'intéresse pas. On met pause deux secondes.
On
là, il y a la moitié qui
ensemble.
Souffre. Et là, si je le dis là maintenant, c'est que j'ai mes règles présentement.
Oh, non.
Et que là, j'ai mal au ventre depuis 2-3 jours. J'ai eu un SPM horrible. J'ai jamais été aussi susceptible qu'il y a 3 jours. Là, c'était horrible. On pouvait pas me parler. J'étais là, me parle pas comme ça. Alors qu'on me disait rien de spécial.
Salut, ça va.
Mais arrête.
Comment peux-tu?
Ça se fait pas.
How dare you?
Mais
oh non.
Donc voilà, non, en fait, ouais. Quelque chose.
Envoyer de l'argent à Justine. Ouais,
bah, en fait, c'est parce que c'est effectivement. Sans... Je dis ça parce qu'on va recevoir ça en commentaire ou quoi et ça va me gonfler. On est bien au courant que le problème est plus large que la recherche et que c'est les lobbies pharmaceutiques et compagnie qui ont trois pertes, machin. Donc, ça fait partie du placement aussi de l'argent. Bah, oui. À un moment, c'est... on a conscience que c'est évidemment plus grand que ça. Mais je ne peux pas croire qu'on arrive à envoyer des gens sur la putain de lune et qu'on sache pas arrêter nos règles avec une piqûre de je sais pas quoi. Enfin, laissez-moi en fait.
C'est clair. Une piqûre de je sais pas quoi.
Je te jure.
Sur la putain de lune.
Qu'est-ce que... Est-ce qu'il faut que je prenne. J'ai
non,
peur les jeux en
non,
vrai.
Non, c'est comme tu veux. Tu peux repiocher
au-dessus. Tu fais ce que tu veux. Mais je sens que t'as envie.
Vas-y, j'ai un peu peur, mais vas-y. Okay. On tente.
Même moi, j'ai peur. Même moi, j'ai peur.
Blind test en tout sens.
Ah, c'est le retour du blind test Covid.
Blind test en tout sens. Mais alors, ça veut dire quoi? Très exactement.
Alors, bah, tu choisis une chanson dans ta tête et tu tentes de nous la faire découvrir en toussant.
T'as un exemple, Justine?
Allez, j'en ai un. Donc, j'essaye de vous faire deviner une chanson en toussant. Je rigole d'avance, c'est horrible. C'est... On l'a fait qu'une fois avec Thomas Messias.
Ouais. C'était. Bah, on part en fou. On part en fou. On part en fou des fous à chaque fois.
Oh là là. Ok.
Mais c'est Étienne Daho qui chante déjà ou...
Ah,
c'est vrai! C'est Weekend à Rome!
Mais non, non mais ah non mais
okay. En fait, pour vous dire la vérité, c'est pas l'air. C'est pas non possible. Non, c'est pas l'air qui m'a fait. En fait, je déteste Étienne Daho, donc c'est assez viscéral. Je déteste les.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Chanteurs qui sont nonchalants. Ça m'énerve la nonchalance. Si t'as pas envie de le faire, le fais pas. Enfin, c'est vraiment pas bon. Donc là, j'ai vu sa nonchalance. Elle m'a donné envie de la gifler. Je me suis dit, c'est donc Étienne Daho.
Quand même, t'as retrouvé Weekend à Rome.
C'est vrai qu'il y avait un truc dans les sourcils. Un peu c'est nonchalant. Vrai, j'ai trouvé.
Non, j'avoue, j'ai peut-être triché avec la nonchalance.
Putain, j'aurais pas deviné. Moi, j'étais partie très loin. Là, je cherchais. Mais ok, donc d'accord. Ok.
Moi j'en ai une.
La barre est haute. Mais vas-y, ouais, si t'en as une. Une autre vie, c'est ça?
Tu m'as dit que j'étais faite. Oh, une drôle de vie.
Ah, une drôle de vie. Pas une autre vie, n'importe quoi.
J'ai vu que tu savais.
Une drôle de vie. C'est bien parce que t'avais presque le petit vibrato, même avec la. Même
en fait, on reconnaît vraiment pas la chanson. Elle a tout. On reconnaît, elle a dit. Tu sais, les petites notes à la fin.
T'es en train de nous en faire une, là?
Non. Non, 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 je suis en train... Non, non, pas du tout.
Tu es en train de t'imiter.
Ah non, moi, j'ai... Attends.
Tu vois, je trouve, si on commence sur un peu les années 2000, les autres vont proposer les années 2000. Là, t'as fait Étienne Daho, je suis allée chercher un peu la même période, genre.
Ouais.
Notre cerveau, il est feignant.
Ok.
Attends, pause. C'est hilarant, vous voyez pas, mais elle met sa main devant sa bouche. Comme parce que la politesse, c'est que quand tous on met la main devant sa bouche
ou le coude.
J'avoue.
Pardon.
Ça me fait bizarre de tout faire mettre la main.
Enfin, je suis trop polie comme meuf, c'est chaud.
Ok.
Pardon, refaire.
Ah, mais j'aimais. Parce
que du coup, j'ai plus.
Ok. Impossible.
Il m'a dit quelque chose cette
note. Attends, faut que je passe au refrain peut-être.
Putain, mais j'ai l'impression que c'est évident.
Mais de où ?
Je n'arrive
Moi,
pas
je trouve
tout.
Ça hyper bien fait, mais je retrouve pas.
C'est très long par rapport à nous. Par rapport à nous qui rigolons un peu.
Putain, de notre tout. En plus, c'est...
Putain, je l'ai pas.
C'est la meuf, elle est chanteuse et tout en plus, elle sait même pas.
C'est français ?
Non.
Ah ok, c'est pas un truc français, c'est en anglais.
C'est peut-être que je change là.
Et c'est là... récent ou c'est vieux ?
Non, c'est année de 90.
Ok, vas-y, attends, refais le refrain.
Britney.
Oui, merci.
Loneliness is killing me and I.
Ouais, hit me baby one,
hit me baby one more time.
Mais c'était hyper dur en fait. Quand je me suis lancée dans le truc, je me suis dit non.
Ah oui.
Bah c'est très la même chose tout le temps en fait. C'était vraiment un choix de merde.
C'est pour ça que j'avais le end eye. Je l'avais un peu.
Yes.
Bravo.
Voilà.
Bravo.
Excellent. Désolée pour ça. On va reprendre une question.
J'espère que vous avez trouvé, que vous avez joué chez vous.
Putain,
indice à la maison.
N'hésitez pas à jouer chez vous et nous envoyer.
T'as pris une question.
J'ai repris une deep. Franchement. Tes principaux objectifs pour cette année. Ok, c'est deep.
Carrément
ça.
Agaçant.
C'est deep,
bah,
c'est
deep parce que ça dépend quels sont.
Ouais, c'est toujours deux lectures. C'est tes soit c'est tes objectifs genre chill quoi, ou tes objectifs plus profonds pour toi.
Oh là
vois,
là. Ok.
Bah en fait c'est deep voudrais... dans la mesure où ça raconte quelque chose de toi un peu plus intime.
Mais bon pour cette année on est en
que
octobre.
Ton film préféré. Oui bah on peut penser à l'année scolaire.
Voilà on saute.
Non, mais... Ou alors l'année prochaine.
Il vous reste 2 mois pour atteindre vos objectifs.
Vraiment là
oh,
ça,
non.
Ça met la pression.
Bah, j'avoue ça pourrait être ça. Des petits objectifs avant que l'année,
l'année
bah,
termine.
Mon objectif c'était de venir dans ce podcast donc c'est bon. C'est fait. Mic drop. J'ai fini. J'ai atteint mes objectifs.
Allez, ciao.
Alors je sais pas. J'ai pas mal de projets pour l'année prochaine, notamment ce que je disais, que je vais autour de ma deuxième saison de podcast, je vais faire des événements donc, où on va vraiment créer du lien entre les femmes du monde de la musique. Donc ça va être cool, ça va être assez, pas mal de taf, mais on va créer ça, on va faire ça à la petite halle, je sais pas si vous voyez.
Et tu
à
dis
la Villette.
Parce que
j'ai une équipe de meufs avec moi que j'ai embarqué dans le projet et on va créer ça, on va faire une soirée par mois, donc ça va être assez, assez important comme boulot.
À Paris?
À Paris, ouais.
À la petite, bien,
à la petite halle, ouais.
Okay. Ah oui.
À la Villette. Et donc ça, déjà, c'est un gros objectif. Et puis après, bah, j'ai quand même pas mal de musique à faire, vu que j'ai un album
à
faire. Voilà, on a un album à rendre avec l'Impératrice, donc genre enfin, au mois de juin. Donc ça va être un gros objectif pour cette année scolaire. Et donc, à côté de ça, je vais avoir le temps de rien faire d'autre. Donc je sais pas si je me fixe d'autres objectifs. Mais si, après, j'aimerais bien... continuer, je sais pas, à faire des collages aussi, parce que ça, je faisais pas mal de collages féminazis à un moment, et j'ai arrêté parce que bah, j'étais en tournée et tout, donc ça, j'ai vraiment envie de reprendre avant qu'il fasse trop froid, parce que c'est vraiment kiffant à faire, s'il y en a, je sais pas s'il y en a, je sais pas si vous d'ailleurs vous en faites.
Nous, on a déjà fait des collages, et j'en profite d'ailleurs pour expliquer rapidement aux gens qui nous écoutent que pour celles et ceux qui savent pas, donc on parle des collages féministes dans les rues, donc les fameuses feuilles à 4 blanches avec des messages genre je te crois ou genre
voilà.
Darmachien en démission, tout ça.
Notre préféré.
Notre préféré. Non, Darmachien ou Waf. Mais oui, pour les, voilà, ou en tout cas qui dénoncent les violences sexistes, sexuelles, etc. Enfin, il n'y a pas d'etc. d'ailleurs, c'est globalement ça. Et qu'en fait, parce que nous, quand on en a déjà fait, et très souvent, il y a des gens, quand ils nous croisent, je parle pas de ceux qui nous détestent, parce que ça, bon, passe encore, mais il y a des gens qui sont là, genre, ah, c'est vous les colleuses, bravo. Et tu fais, voilà, donc je vous explique, grossièrement, c'est une organisation horizontale, donc techniquement, tout le monde peut le faire. Vous pouvez vous créer votre groupe de collage, et il n'y a pas de règles, si ce n'est de respecter l'idée générale du projet. Si c'est pour aller coller j'aime pas les femmes, bah c'est pas tout à fait le projet. C'est moins le projet en tout cas, voilà. Mais techniquement effectivement ça peut, c'est une organisation assez horizontale. Il y a pas mal d'infos que vous pouvez trouver sur Insta, sur internet, en creusant, en fouillant ou en demandant à des gens qu'on a déjà fait. Mais vous pouvez créer votre équipe, voilà, pour la petite info.
C'est trop bien, c'est trop satisfaisant
et ça fait beaucoup de bien.
Ouais,
c'est vraiment se réapproprier aussi l'espace public. Il y a aussi beaucoup de ça, il y a marcher en groupe dans les rues en étant que des femmes et que pour une
c'est
fois soit
nuit,
un peu
en
les
plus
autres
souvent.
Qui la nuit en se sentant en sécurité. Ouais, il y a un truc assez
après en sécurité il y a quand même aussi ce truc de, enfin je sais pas vous, mais nous on s'est quand même pas mal fait insulter parfois assez violemment, donc ça peut aussi être
Bah, d'où l'idée d'être en groupe mais de pas partir à deux ou trois, enfin voilà, d'être un groupe assez
ouais, nous on a fait ça à 5-6 en général, un truc comme ça, parce que après si t'es trop nombreuse aussi c'est
plus visible parce que c'est un peu interdit par la loi quand même.
Je crois c'est interdit officiellement ou pas de coller,
je crois que ça va en vrai,
c'est toléré
pas... mais apparemment tu peux te retrouver au poste quand même, hein.
Oui,
mais,
voilà,
mais
nous,
bon,
on s'était fait arrêter par la police.
Ouais, moi aussi, mais ils avaient finalement ils avaient été gentils. Mais
c'est des collages, hein. Ça va.
Bah ça part, ça
c'est
part
du papelard sur un mur, quoi.
Oui, oui, c'est
pire. C'est enlevé le lendemain en général. Donc, voilà.
Oui, voire même dans la nuit.
Ouais, c'est clair.
Mais en tout cas, ouais, l'acte de le faire, il y a un truc très empouvoirant et vraiment cool. Et ça, j'ai envie de m'y remettre un peu parce que ça fait longtemps.
Trop satisfaisant, ouais. Il y a des villes comme Montreuil qui
tolèrent,
encouragent,
oui,
non mais qui encouragent même à coller.
Ah ouais, t'as
ouais, ouais, y a des endroits où c'est... Mais même le 20e, il semblerait que dans le 20e, la mère avait dit moi je suis plutôt OK avec l'idée. Donc en gros, il y a des endroits où c'est moins problématique que d'autres. Mais en tout cas, voilà, je vous encourage à vous renseigner et surtout à pas vous dire c'est un groupe qui existe et je sais pas comment y entrer. Non, en fait, vous pouvez carrément faire votre groupe.
Ouais. Tu reprends juste le principe avec les feuilles A4 et la grosse lettre noire dessus et puis tu colles ce que tu veux, quoi. Enfin, ce que tu veux. Voilà.
Tu peux coller si vous voulez être sûr de pas taper à côté quoi, bah vous collez des slogans que vous avez déjà vus, comme ça,
ça.
Vous savez qu'ils existent déjà un peu.
Ou même sur Insta,
les plus basiques, sur Insta,
t'en as plein. Sur les pages Insta des coloreuses, il y a souvent plein d'exemples. Moi, je fais ça en général, je vais choper des trucs, ou parfois, mais c'est rare que j'invente des slogans. En général, je vais récupérer des... Puis il y en a qui sont très drôles aussi, au-delà de... Voilà, il y a des trucs très deep, il y a des témoignages, et puis il y a des... Parfois, c'est quand des... Souvent, c'est des féminicides, donc parfois, c'est difficile, mais il y a aussi des trucs très drôles à coller, et c'est marrant. C'est quand même...
Ok, donc objectif, recoller.
C'est bien comme objectif.
Objectif. Objectif. Articuler, apprendre à articuler.
Grave. Apprendre à ne pas confondre deux mots. Et toi ?
Ah, et moi, je pense que j'en ai plein. Enfin, il y a plein de choses plus intimes que d'autres, etc. Mais globalement, il faudrait que l'année prochaine, là, enfin, à partir de janvier, j'apprenne à prioriser. Pas forcément, tu vois, à dire oui ou à dire non à des projets, parce que je commence à vraiment essayer d'y réfléchir davantage. Et maintenant, quand je dis oui à des trucs, même si c'est trop dans mon planning et tout, je me dis, j'ai dit oui pour telle raison, c'est important. Mais apprendre à vraiment à prioriser, et surtout par rapport à mon spectacle, parce que je fais donc un one que j'ai commencé là cette année, et je vois bien que s'il passe en dernier par rapport à mes autres projets, c'est pas possible de le faire évoluer. Et en l'occurrence, il faudrait que ça évolue, parce qu'il y a des gens qui m'accompagnent, et je vois bien qu'ils et surtout elle croit en ce projet et au fait que ça peut aller quelque part. Donc voilà, apprendre à gérer mon planning pour laisser du temps à ça.
Attends, mais c'est quand ou quoi, comment...
Bah pour l'instant, je l'ai joué une dizaine de fois dans Paris.
Ok.
Et du coup là je vais faire une nouvelle version. Il faut que je réécrive une version qui soit justement plus proche de ce que j'ai envie de défendre et de dire, qui puisse être une version qui tourne un peu plus. Qui soit plus abouti. Donc pour ça, il faut que j'y passe du temps. Et là, il faut que je réécrive. Et j'ai regardé mon planning du mois de novembre et je suis là, genre. Ça marche.
Non.
Mais donc, voilà, apprendre vraiment à gérer un planning de manière plus.
Assidue.
Plus assidue et plus reposante aussi. Enfin, qu'il y ait vraiment des moments où je suis off, des moments où je travaille sur ci, sur ça.
Ouais, je te rejoins là-dessus.
Quand on est seul, ces projets perso, en fait, c'est terrible parce que je pense. Pour le coup, je pense que tout le monde est un peu comme ça. Ouais. Et que c'est plus facile quand quelqu'un t'appelle et dit on peut faire un truc, t'es libre, et tu mets oui, je suis libre. Et en fait, toi, tu vas pas t'appeler toi-même en disant est-ce que je suis libre. Enfin, du coup, ça passe en dernier un peu. Et ça serait bien que ça soit pas le cas parce que sinon, on n'avance pas correctement.
C'est plus simple quand on te cadre. Tu veux que je te cadre ?
Je te dis, on travaille ensemble alors qu'en fait, je travaillerai pour moi. Mais non, mais c'est vrai que t'as tendance à, même quand je me suis laissé exprès deux jours, si quelqu'un m'appelle pour un autre truc, je vais dire bah oui, techniquement, je suis libre. Et en fait, apprendre à se dire que travailler pour soi-même, c'est pas être dispo, quoi. Donc voilà, je pense que ce serait un bon objectif, projet, ça. Ouais. Et toi ?
C'est notre projet.
Moderne. T'as des rêves modernes. Déjà, il faut essayer de Valérie Giscard d'Estaing.
Au revoir. et moi, moi, c'est finir ma série qui est en cours de montage, qui est bientôt finie. Voilà, c'est vraiment mon premier gros projet perso, solo, un peu de A à Z, genre que j'ai écrit et là, dont on vient de tourner 4 épisodes. Donc, qui va sortir début janvier probablement. Et puis, écrire la suite. Voilà, c'est ça mon objectif là, c'est d'écrire la suite avant même que ça sorte, parce que j'ai envie que ça... Ouais, j'ai envie que ça continue et j'ai pas envie que le soufflet retombe. Donc... Et ça rejoint un peu ce que tu dis, c'est du coup me poser des plages horaires d'écriture de ça, parce que j'arrête pas de me dire « Mais oui, je vais écrire la suite, entre deux trucs. » Non, en fait, je crois qu'il faut que je me cadre. Genre, cette journée est conçue...
Dédiée,
elle a pas été conçue pour ça. Dédiée. Didier.
Didier Deschamps. C'est Didier Deschamps qui vient et dit.
Écris ta série.
Non, mais il a un accent.
Viens te coacher.
Tu ne devrais pas écrire ta série, Justine. Enfin, là, moi, les voix que je connais, c'est les voix des guignols.
Tu penses qu'il est doux comme ça, Didier ?
Bah, avec toi, il n'aurait pas de raison d'être méchant. Enfin, tu vois, il ne va pas te crier dessus tout de suite.
Bah non, mais je voudrais qu'il me coache. Enfin, si c'est pour venir.
Et tu dis, oh, bon Dieu, Justine. Non, c'est pas du tout.
Du tout.
Pardon.
Moi, je le vois pas trop comme un mec agressif.
Bah oui, c'est vrai qu'il fait doux. Vous avez...
ouais. Non, mais il peut peut-être te dire un truc bien acide, du style, enfin, tu sais, un peu passif-agressif. Alors, après, tu fais comme tu veux, mais bon, je pense que si tu écris pas maintenant, c'est pas la peine de t'y mettre. tu vois, un truc un peu genre. Ça, ah, d'accord. Et donc là, tu vas faire. Oh,
le. Ouais. Wow. Encore pire que me gueuler dessus. Ça fait vraiment. Ouais. Oh, je l'ai déçu.
Ouais. Bon, ben, ouais. Tu devais me rendre 10 pages. Je n'ai rien vu, mais c'est pas grave. Ouais, si c'est... tu n'as pas envie de le faire, dis-le. Mmh. Je limite hyper mal.
Si tu veux que ta saison elle sorte alors qu'il n'y a même pas la deuxième écrite, c'est
pas grave. Pas grave. Hein. Allez, on va boire un café. Bom, 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 bom. N'importe quoi.
Ok, on va l'appeler. Hein. Il faut qu'il vienne.
Comment ? Pourquoi Didier Deschamps ?
Une journée Didier.
On est fou.
Une
journée Didier. Alors aujourd'hui, c'est une journée Didier, mais à mon projet.
En vrai, il y a des gens qui n'arrivent pas du tout à fonctionner comme ça. Moi, oui, plutôt, et toi, peut-être aussi, du coup. Mais tu sais, de se dire vraiment, aujourd'hui, j'ouvre mon ordi et il faut que j'écrive. Moi, je sais que je peux le faire, mais il y a des gens, c'est pas du tout comme oui. ça qui peuvent fonctionner.
Moi, c'est que toi, c'est le dernier moment. Si c'est pour rendre le lendemain, ouais, là, je vais le faire. Okay. Mais ouais, je suis pas. Enfin, j'ai du mal à. Effectivement okay. à me ménager du temps pour les trucs pour ouais. moi en fait.
Mais est-ce que c'est parce que il y en a, tu sais, ils y réfléchissent en marchant, enfin ils se disent ah c'est bon, ça mûrit dans la tête et mm-hmm. j'attends que ce soit vraiment mûr pour bam je me mets devant un écran. Moi je sais que non, moi je me mets devant un écran et je peux.
Bah non, moi quand même plutôt je suis genre à 22h j'ai une idée dans mon lit et là hop bam 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 je peux écrire 2 heures d'idées et ça va plus venir que
Didier.
J'ai une journée Didier. J'en ai marre de Didier.
Lâche-moi la grappe, Didier.
Oui, donc quand même, t'as besoin que ce soit. C'est un moment
moi, j'ai plutôt
un...
besoin que ce okay. soit spontané, mais là, ouais. je sais qu'il faudrait plutôt que je m'y mette vraiment pour enfin, ou au moins avoir une deadline, effectivement. Parce qu'au ouais. moins, quand j'ai une deadline, je me dis 2 jours avant, ah, allez, c'est parti.
Bah, si tu veux, je t'envoie un message. Je te dis, ouais. je veux votre rapport sur mon bureau pour lundi matin.
Au rapport. Ouais.
Et toi, c'est vraiment deadline, dernier moment aussi.
Moi, c'est deadline, mais après, c'est vrai que, par exemple, dans l'écriture de chansons, dans la composition de chansons, j'ai aussi appris à faire ce que tu dis, à genre, me mettre devant un ordi et me dire, ok, aujourd'hui, faut que j'avance, faut que je fasse cette chanson. Et c'est pas un peu, je suis pas dans le mythe de genre l'inspiration qui vient, genre j'ai rêvé d'une mélodie et je me lève et ouais. je... non, pas du tout. Moi, je suis beaucoup plus dans le, ouais, dans le travail en fait, mine de rien, c'est ouais. que composer une mélodie, c'est du travail. Et pareil. Écrire un texte, c'est pareil. J'ai pas ce truc de j'attends que l'inspiration.
Et tu vas pondre direct vienne. Le texte magnifique.
Ouais, voilà, non, c'est juste beaucoup de taf. Et ouais. Parfois, c'est des jours et des jours et des jours et des versions, 12 000 versions. Et donc, effectivement, je suis quand même souvent dans le rush de la dernière minute, mais je sais que je peux faire ça aussi. Ouais, je peux me poser et bosser pendant des journées entières sur un morceau. Ouais.
Mais je me demandais justement qui écrit les textes.
C'est moi.
C'est toi qui écris.
C'est moi, surtout sur le dernier album. Le premier album, on l'avait écrit à deux, un peu avec le leader Charles. Et là, le deuxième, ouais, j'ai écrit toute seule. Et sur deux morceaux, j'ai été aidée par un jeune rappeur qui s'appelle Fiskara,
yes.
Qui est quelqu'un de vraiment extraordinaire et qui m'a aidée à vraiment changer ma manière d'écrire. Et après, ouais, j'ai écrit tout le reste toute seule.
Ok, ça se sent. C'est toi qui as écrit Ta peur des filles.
Oui, c'est moi qui ai écrit Peur des filles. Ça, pour le coup, ça m'aurait fait chier de qu'un mec écrive
oui,
Peur
bien
des
évidemment.
Filles.
Mais et du coup, c'était simple de l'amener ce texte et de dire ok, c'est un texte féministe, c'est bon, ça vous va, les gars.
Bah, j'avoue que j'ai eu peur au début ouais. parce que en plus dans
donc
la période.
Toi, t'as peur des hommes en fait.
Voilà, moi j'ai clairement peur des hommes de mon groupe. Non, mais en fait, ils ont ce truc où ils aiment. C'est des musiciens qui veulent vraiment pas faire de politique. Mm-hmm. Et comme tout est politique, déjà, moi, je trouve que c'est difficile de faire. Parce que moi, je suis clairement engagée politiquement et j'ai pas du tout de problème à le montrer, à l'afficher sur mes réseaux. Même si, oui, je me prends des messages de haters tout le temps, mais pff, franchement,
on s'en fout.
Ouais. Exactement. Et eux, par contre, ils sont beaucoup plus dans ce truc de. De ouais, on est là pour faire de la musique, on
n'est
pas là pour faire de la politique, même la musique.
Il y a plein de musique politique.
Bah oui, et puis pour moi, la musique, c'est une. Tu vas sur une scène, c'est politique.
Depuis la nuit ouais. des temps, il oui. y a des messages, des énormes messages voilà. dans des chansons, même oui. quand on n'en a pas idée. Tu vois.
Ouais.
Ouais, puis le simple fait de faire de la musique, il y a quelque chose de politique oui. en fait oui. là-dedans. Donc, bon.
Ouais, tu revendiques des trucs.
Quoi. Exactement. Mais eux, ils sont okay. vraiment contre ça. Donc j'avais un peu peur que ça passe pas. Et en fait, comme j'ai écrit ce morceau. Il y a un ton très ironique en fait
oui.
Et du coup c'est pas quelque chose
ça
de
passe.
Frontal tu oui. vois c'est pas vraiment c'est surtout pour moquer en fait des bolos mm-hmm. j'ai pas d'autres mots là tout bien mais du coup ils l'ont vraiment bien accueilli ouais, ouais. et ils étaient chauds et même pour le clip parce que le clip du morceau c'est un mec qui s'appelle Aubery qui l'a fait il est allé encore plus loin même que le morceau parce que je me retrouve à trancher la tête des mecs de mon groupe et à tabasser tout le monde avec un couteau. Enfin, moi, c'était très drôle à faire. Et je me suis dit, ok, c'est cool, je peux aller jusque-là. Après, voilà, ils sont pas forcément chauds pour que que je fasse des chansons politiques par contre, parce que c'est vraiment pas le cahier des charges, ouais, disons, de l'impératrice. Mais celui-là, ouais, ils ont... En même temps, si, je pense qu'ils avaient pas accepté, ça m'aurait grave vénère. Ouais, donc,
Et est-ce que tu penses, du coup, on retourne sur l'interview un peu du début, mais est-ce que tu penses à faire un peu en solo à côté aussi, ou pas, pour faire du, un peu du, bah, ce que t'as envie de raconter vraiment de A à Z, quoi?
Après, je fais des collaborations parfois, c'est assez rare, mais j'en ai fait récemment où je peux vraiment plus écrire vraiment ce que je veux. Mais du coup, c'est pas forcément politique ce qui en sort à la fin, mais l'impératrice, c'est vrai que j'écris des textes qui, moi, me font kiffer, mais qui doivent aussi plaire aux mecs de mon groupe.
C'est un groupe,
voilà, donc il y a quand même un filtre à un moment, alors que quand je fais des collaborations, en général, c'est plus vraiment j'écris ce que je veux. Mais pour l'instant, j'ai pas de projet solo, non. J'ai pas forcément le temps aussi, parce que je suis occupée à mon podcast aussi et toutes ces autres choses. Mais si un jour ça arrive, oui, c'est sûr que ce sera assez kiffant d'avoir une liberté totale aussi. Je pense que
après tes réseaux sociaux, ça traduit ça un peu, je trouve. Enfin, j'ai l'impression que t'es grave libre de raconter ce que tu veux, de chanter même des petits bouts que toi tu veux solo.
Ouais, à fond. Oui,
t'as ta liberté de raconter.
Oui, puis l'avantage, c'est que l'impératrice aussi, on est en indé, on est dans un tout petit label qui s'appelle Microclimat. Qui est un super label, et du coup on n'est pas dans une logique de, il n'y a pas de contrôle de notre image, de nos propos, donc on fait vraiment ce qu'on veut artistiquement, on fait ce qu'on veut, donc après c'est avec tous les inconvénients aussi de l'indé, hein, qui sont c'est beaucoup bout de ficelle,
il y a moins d'argent,
DIY, il n'y a pas d'argent, donc tu dois toujours un peu gérer toi-même, mais ce qui est cool, c'est que du coup on n'a pas de compte à rendre, et notamment sur nos réseaux et sur les miens aussi, quoi. Je fais vraiment ce que je veux, pas de problème là-dessus.
Mais du coup, c'est ça que je voulais demander en off, et j'en profite dans le podcast, c'est puisque tu parles de indé et on n'a pas à rendre des comptes, mais pourtant vous avez une date de rendu d'album, c'est ça qui me questionnait. Oui. Parce que je disais en off avant, mais on se disait qu'on gardait ça pour le podcast parce que peut-être que ça intéresserait des gens. Mais du coup, je viens de voir la saison 2 du docu sur Orelsan, qui est sur Amazon et qui est trop stylé. Enfin, pas Amazon qui est stylé, mais Orelsan, bref.
on embrasse Amazon.
Et merde,
trop stylé.
Et du coup, j'ai compris dans ce docu qu'il y avait une date de rendu d'album. Et du coup, peut-être c'est grave normal, mais moi j'avais l'impression que les artistes ils faisaient leurs albums dans leur coin pendant 1000 ans, et un jour l'album était prêt, plus ou moins. Ils disaient c'est bon, j'ai un album. Orelsan, il a sa date avant même d'avoir rien écrit.
Ouais, mais...
Il a rien écrit quand il a sa date de rendu d'album.
C'est comme on est en indé, mais Orelsan il est indé aussi, hein, donc c'est peut-être pareil, mais. En fait, on ne peut pas se permettre de disparaître trop longtemps.
Ouais.
C'est vraiment ça, le premier truc. Et donc, là, mine de rien...
D'être récurrent.
Bah, c'est ça, tu as besoin de quand même battre le fer tant qu'il est chaud. Surtout que nous, on a eu une bonne tournée là, d'album. On a vraiment fait une tournée dans le monde pendant 8 mois. Et du coup, on ne peut pas se permettre de disparaître trop longtemps. Parce que aujourd'hui, ça va tellement vite, la musique aussi, que, comme tout, que les gens, si t'es pas là,
ils t'oublient.
Bah, ils t'oublient, faut,
mais c'est ce qu'il
faut repartir
beaucoup,
d'en bas.
Orelsan, pour le reciter, du coup, dans l'album, il est là. C'est bon, tout le monde m'a oublié.
Après, c'est bien parfois de se faire un peu oublier, mais il y a un dosage hyper relou à trouver, je pense.
Ouais.
Et nous, par exemple, tu vois, là, on a fini. Donc, on a sorti notre deuxième album en mars 2021. Et là, on a prévu de sortir du coup le troisième, alors qu'on n'a rien fait encore, vraiment, il n'existe même pas, en mars 2024.
Oui.
Et donc, quand tu es en indé, surtout, il faut compter à peu près 6 mois pour travailler un album, c'est-à-dire tu as travaillé son image, travailler le propos, le propos, je veux dire le storytelling au moment de la sortie, les singles, blablabla, organiser la sortie des singles, tourner des vidéos et tout. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on l'ait rendu à la mi-2023, quoi, globalement, pour pouvoir avoir le temps de le travailler. Et donc, ça veut dire que là, on a jusqu'à mi-2023 pour tout faire, quoi.
Mais c'est vous qui avez mis cette date en fonction pour être à temps, pour pas que les gens vous oublient. Enfin, vous y avez réfléchi.
Ça. Oui, on y a réfléchi avec le label. Voilà.
Okay.
T'es obligé d'y penser, en fait, parce que si t'y penses pas, je pense que effectivement, on peut se dire on prend 4 ans, facilement 4 ans à la tronche.
Deadline, parce que, comme on disait, sinon, tu bosses pas. Enfin, si tu te mets pas de deadline, tu te mets pas dessus, quoi.
Après, il y a des artistes qui choisissent de faire un vrai break, parce que effectivement, comme je disais, c'est aussi un rythme. Là, j'ai été 8 mois en tournée, on enchaîne direct avec la composition de l'album, et après on va enchaîner avec la tournée de l'album. Donc en fait, ça s'arrête jamais. Donc moi, je comprends les artistes qui disent ok, non, là j'ai besoin d'un break, en fait je peux pas, même ne serait-ce que pour nourrir ta créativité.
C'est des choix perso. Je pense à, je sais pas, par exemple, L'Homme Pâle, genre, pour moi il a disparu complètement pendant deux ans. On l'a pas...
Il a
même disparu, enfin vraiment des réseaux et tout. Genre, on l'a pas du tout vu pendant deux ans et bim, un album.
Ouais.
Mais du coup, ça se travaille aussi. J'imagine que lui, quand il a travaillé la promo de la sortie de son album, c'était en considérant qu'il a disparu pendant deux ans.
Oui.
Enfin, du coup, ça crée un truc de... Ça fait partie de sa,
ouais, je suis de retour,
sa campagne artistique, si je puis dire. Quoi.
Mais c'est dur de revenir aussi. Je pense aussi à Christine and the Queens qui est partie, je crois, 4 ans, un truc comme ça. Hein. Elle a été, ou peut-être 3 ans, 3-4 ans. Enfin bref, elle n'a pas été là pendant très longtemps. D'ailleurs, excusez-moi, parce que maintenant c'est Redcar. Et maintenant, je pense que c'est assez difficile pour lui de revenir aussi parce que parfois tu repars un peu de. Ouais. D'en bas, quoi. Et aujourd'hui, il faut rivaliser d'inventivité pour trouver des concepts qui n'ont pas été faits. Lumpal, là, il a été assez fort sur son retour, mais donc, ouais, il y a des deadlines.
Ouais, c'est très stratège.
Et aussi parce que c'est de l'indé. Parce que tu vois, je pense que t'es dans une grosse major, forcément, les mecs, ils mettent 250 000 balles pour ta promo.
Oui, la deadline, c'est eux qui t'imposent. C'est pas toi qui réfléchis selon l'avancée de ton groupe, c'est eux qui décident un peu pour toi, quoi.
Oui, mais au sens où je pense que tu peux aussi te faire oublier si t'as un énorme billet pour être sur les couves de tous les magazines de France. Bah, ça va, tu peux peut-être disparaître un peu. Alors que nous, comme on fait tout nous-mêmes et qu'on est là avec nos petits réseaux,
Tu vois, Jean-Jacques Goldman, par exemple, il n'a pas sorti d'album depuis combien de temps?
Voilà,
et tout le monde
c'est
dit
que
c'est encore la personnalité préférée des Français. Ouais. Tu vois, lui, on n'oubliera jamais. Jamais on s'en remettra, Jean-Jacques.
J'ai jamais entendu personne dire « j'aime pas Jean-Jacques Goldman ». C'est ouf.
Oui, oui.
Ou alors quelqu'un qui n'aime pas trop sa musique, peu importe, mais qui ne l'aime pas. Genre vraiment, berk.
Non.
Ouais. Alors que Patrick Bruel, par exemple.
Ah bah oui, bah enfin bon.
Mais je crois qu'il fait encore partie des personnalités préférées aussi.
Ouais, il est l'heure du top flop.
Top flop culture.
Ouais,
c'est pas à nous hein, de faire le jingle.
J'ai envie de prendre cette voix.
Mais il était super en vrai là, je change rien. Non, franchement.
On garde.
Et donc l'idée, c'est de conseiller ou déconseiller une œuvre que tu as vue, entendue, lue récemment, mais qui n'est pas forcément récente, dont tu as envie de nous parler, et quelque chose que tu as aimé ou pas aimé. On peut commencer si tu veux gagner du temps, ou si tu as déjà quelque chose. Bah,
là, j'ai un truc comme ça qui me vient, parce que... J'étais présidente du Paris Podcast Festival, enfin du jury du Paris Podcast Festival ce week-end, et j'ai écouté plein de podcasts extraordinaires, vraiment. Alors, est-ce que j'ai le droit d'en dire deux ou pas?
Bien sûr.
Ah, cool.
Bien sûr.
Parce qu'il y en a deux qui
m'ont... Écoute, tu peux en dire deux, mais bon, nous, après...
on va
couper qui sera coupé au montage. parce qu'il y en avait deux qui étaient vraiment, vraiment ouf. Et c'est deux podcasts faits par des femmes. Donc, il y en a un qui s'appelle La France mon bled, qui est un podcast sur les femmes dans l'immigration algérienne, donc à partir des années 60 et jusqu'à aujourd'hui, et c'est avec que des témoignages de femmes issues de l'immigration, donc et donc descendantes ou vraiment qui avaient grandi en Algérie, et c'est hallucinant. C'est un documentaire RFI du coup en 5 épisodes, et c'est vraiment, moi j'ai pleuré en l'écoutant parce que les témoignages sont incroyables, c'est trop beau. C'est trop intéressant en plus. Enfin, moi, je trouve que c'est une histoire qu'on raconte pas assez. Et surtout les femmes, en fait, dans cette immigration. Parce que je trouve qu'on parle un peu de la guerre d'Algérie maintenant, avec en plus le 60e anniversaire et tout. Mais quand même, les femmes dans cette histoire-là, on en a pas beaucoup parlé. Et putain, elles ont...
Alors qu'on en parle tellement des femmes d'habitude dans tous les.
Bah, en plus, c'est ça, c'est trop bizarre.
Fois, on en revient toujours à la même chose. Hein, c'est trop stylé.
Voilà.
C'est mon prochain rendez-vous.
Je le recommande. Et le deuxième, c'est un podcast québécois qui s'appelle Synthèse, le cas Catherine Davio. En fait, c'est sur un féminicide qui a eu lieu à Montréal en 2008, dont moi, j'avais pas du tout entendu parler. Et apparemment, même à Montréal, on s'en rappelle pas vraiment. Et c'est une meuf de 26 ans qui s'est fait assassiner, enfin, qui s'est fait violer, brûler, assassiner chez elle. Enfin, horrible. Un féminicide hardcore. Et c'est une équipe de... C'est un podcast, en gros, Synthèse, où ils font un peu true crime. Ils reprennent les meurtres non élucidés. Okay. Et ils essaient de creuser l'enquête, de ressortir l'enquête, quoi, et de faire avancer le truc. Et là, en plus, c'est un angle vraiment féministe parce que c'est deux meufs qui ont l'âge que Catherine Davio avait quand elle s'est fait assassiner. Et elles reprennent l'enquête, elles vont jusqu'au vraiment au bout du truc. Bon, spoiler, elle résout pas le. À la fin, on n'a pas le fin mot de l'histoire, mais ça peut peut-être faire avancer l'enquête parce que peut-être qu'il y a des gens qui vont se rappeler de choses en écoutant et qui vont faire avancer le truc. Et en tout cas, c'est trop beau aussi, super émouvant et hyper intéressant. Voilà, je recommande vraiment.
Trop bien, ça donne trop envie.
Grave. Moi, Alors, j'ai regardé une série, c'est, attention, c'est pas du tout un petit truc, tout le monde l'a vu, tout le monde entend parler.
Game
et
of Thrones.
Bah, vraiment, tu crois pas si mais bien non. dire. C'est donc effectivement House of the Dragons que j'ai regardé après avoir vu Les Anneaux de Pouvoir, qui est la série adaptée du Seigneur des Anneaux. Et tout le monde vraiment me disait, tous les gens autour de moi qui ont vu les deux ou quoi étaient en mode le Seigneur des Anneaux, la série elle est pourrie, enfin elle est pas terrible, alors que House of the Dragons c'est tellement stylé. Et bah du coup je suis pas d'accord. Je suis dans House of the Dragons, il doit me rester deux épisodes, donc à moins que les deux derniers blow my mind, genre vraiment je suis genre, je viens de me rendre compte que je m'ennuie grave devant les épisodes. Je trouve ça édulcoré, mon dieu, mais par rapport à Game of Thrones où vraiment c'était très hardcore, là mais c'est extrêmement édulcoré, enfin vraiment il se passe rien, on suit personne, on suit une famille. Dans Game of Thrones en fait ce que j'aimais c'est que justement, même si ça pouvait être lent etc, mais on suivait vraiment des gens et on devait se demander c'est quoi leur lien, et on découvrait au fur et à mesure, là bah c'est une famille, donc on a très bien capté, c'est leur lien c'est que c'est une famille, oh, d'accord, ok, c'est hyper riche. Et vraiment je suis assez surprise de à quel point on est passé d'une série dans Game of Thrones où dès les premiers épisodes t'avais un frère et une sœur jumeaux qui baisaient, qui étaient observés par un enfant qui jetait l'enfant par la fenêtre, l'enfant perdait ses jambes, enfin je veux dire on avait un point de départ tu vois avec une meuf qui se faisait violer par son frère et qui était vendue à un autre peuple, enfin tu vois je veux dire, attention c'est effectivement hardcore,
ça
mais...
t'aimes la violence en fait.
Bah, c'est pas ça, c'est que pour moi et
c'était
et
quand même
après
mieux.
T'avais des bains de sang avec le personnage principal qui meurt à la fin de la saison 1, enfin tu vois des trucs, non mais et là
Pasolini
coup...
il aurait kiffé
non mais genre vous savez c'était ça, enfin oui, pour moi Game of Thrones l'univers c'était ça, et entrecoupé de scènes effectivement très lentes, très décoratives et tout, et là je me retrouve en fait avec une série où ok il y a un oncle et sa nièce qui se tournent autour mais ils attendent bien qu'elle soit adulte et consentante pour qu'il se passe quelque chose entre eux, donc en fait tu fais oui bah de toute façon c'était un univers où ils se mariaient entre cousins, entre frères et sœurs, donc en fait nièce et oncle c'est pas une dinguerie, et ils attendent qu'elle ait 30 piges pour le faire, enfin tu vois, donc j'étais là genre ah mais en fait vous avez tout adouci.
Et est-ce qu'elle passe le test de Bechdel, la nouvelle série, ou pas? Parce qu'apparemment Game of Thrones il y avait zéro épisode.
Ça, évidemment, évidemment je peux comprendre, mais comme à l'époque le Seigneur des Anneaux il y avait carrément pas de femmes, enfin oui, très grave. Peu de femmes dedans, et donc mais là c'est vraiment
tu oublies Arwen
et Galadriel.
Ouais mais justement je crois qu'elle voilà. Ça passait
c'est
quand ça. Même pas
c'est
sûr,
clairement pas
elle parlait pas entre elles.
Est-ce que là peut-être qu'il y a deux femmes qui parlent à des moments et peut-être pas d'hommes, et encore en vrai je sais pas, mais c'est juste que je trouve que c'est très édulcoré, et en fait je retrouve pas les surprises que j'avais dans Game of Thrones où tu t'attends pas à la mort de tel personnage, là vraiment une ou deux fois même on m'avait survendu le personnage de Daemon qui est censé être le méchant qui fait des trucs hardcore, et en fait je suis là genre bah waouh, en fait tout le monde l'adore, enfin c'est évident que tout le monde l'adore, il fait pas grand chose où t'as envie de le détester, donc ouais, il tue sa femme quand même. Je vous spoil un peu.
Pas
quand même, fait des trucs. Non, mais même ça, on le voit pas trop. Enfin, en fait, vous me l'avez beaucoup trop vendu, les gens. Donc, arrêtez de faire ça. Cessez de survendre des trucs où après, je les regarde et je me dis, oui. Enfin, il fait noir la moitié du temps, on voit rien à l'image.
Et
ça
toi,
me flingue les yeux.
Ah, moi, je l'ai pas vu encore, mais j'ai eu les mêmes échos que toi. Donc, du coup, là, c'est bien parce que tu remets un petit peu.
Pardon pour les petits spoils que j'ai pu donner dedans, mais voilà.
Voilà. En général, on s'excuse après les spoils.
je mettrai.
Au fait, pardon pour les spoils.
Non mais voilà, et sinon du coup je vous recommande quand même une autre série qui est pas c'est pas une dinguerie absolue pour l'instant, j'ai vu la moitié de la saison, mais en vrai je la trouve cool parce que justement ça change un peu, ça s'appelle Paper Girls et c'est sur Amazon Prime aussi. Amazon on adore, n'est-ce pas Justine?
Ah mais incroyable cette promo d'Amazon. Non,
c'est sur Prime et du coup c'est l'histoire de quatre filles de 12 ans qui se retrouvent propulsées, enfin elles vivent en 1988 et elles se retrouvent propulsées en 2019, donc c'est l'histoire de quatre filles déjà, donc rien que pour ça, déjà on aime bien parce que ça change un peu. Et du coup, elles retrouvent certaines, leur moi du futur. Donc t'as aussi les versions d'elles à 40 ans et il y a un peu un choc, une confrontation de qu'est-ce que je suis devenue en fait moi-même. Et parallèlement à ça, bah, y a quand même toutes ces histoires de, elles ont fait un saut dans le temps, il y a une guerre des mondes un peu, de ceux qui voyagent dans le temps sont pourchassés par une équipe de gens qui veulent pas qu'on voyage dans le temps, enfin... Il y a des moitié des Transformers dedans, enfin c'est un peu science-fiction et en même temps assez... basé sur quand même les rapports humains, parce qu'il y a cette notion, il y en a une qui retrouve son grand frère qui du coup a l'âge d'être son père et il lui apprend un secret sur elle qui est assez bouleversant, enfin tu vois il y a des trucs, il y a à la fois de l'intime et à la fois du science-fiction, un peu voyage dans le temps et tout, donc franchement assez cool et ça change un peu, c'est pas comme d'hab trois mecs et une meuf quoi. Ouais. Comme dans beaucoup
et
d'équipes Stranger Things.
Qui en plus ne
sert à rien.
Il y a un nouveau test d'ailleurs, c'est pas un nouveau mais c'est un autre test, je sais pas si vous avez déjà entendu parler, le test de la lampe.
Non.
C'est un peu comme le test de Bechdel, mais en un peu plus violent. C'est est-ce que le personnage féminin du film ou la série peut être remplacé par une lampe et ça change rien à l'intrigue. Et ça marche pour pas mal de films. En tout cas, ouais, faites le test chez vous.
Ah, une lampe. Et toi, Justine, t'as une petite roco ou déco ?
Et moi, j'ai une petite... Bah, donc, je recommande quand même grave la saison 2 du docu sur Orelsan. Bon, voilà, mais moi, c'est parce que j'adore Orelsan. J'ai adoré la saison 1. J'ai trouvé ça trop, trop bien comme docu. Et je me suis dit, oh, il fait une saison 2. Peut-être pas. Et ouais. En fait, si, c'est très, très cool. Il le suit. Son frère, donc, c'est son frère qui le filme à Orelsan et qui le suit dans ses aventures. Et il est tellement marrant, Orelsan, putain.
Tu le dis avec la moue dégoûtée.
Oh, c'est pas possible d'être aussi marrant. Merde à la fin.
C'est chiant. Ouais, on adore, putain.
Ah, moi aussi, j'adorais la saison 1. Je savais même pas qu'il y avait la 2 qui était sortie.
Et c'est toute la création de son album Civilisation qu'il a donc fait pendant le Covid. Et il est drôle, quoi. Il est un peu à côté de la plaque, mais en mode vraiment drôle, quoi. J'aime beaucoup ce gars. Et du coup, je trouve le docu d'ailleurs très bien fait. Vraiment, le montage est trop bien. Donc, c'est un plaisir à regarder. Il y a 4 épisodes, trop cool, voilà. Et sinon, je me suis lancée dans Mental, une mini-série qui était sur Slash et qui a été du coup achetée par Netflix, visiblement, puisqu'elle est dispo sur Netflix désormais. Et c'est très, très cool. Série française hyper bien jouée. Assez rare.
Ah putain, ouais. Vraiment, ça arrive
jamais, hyper bien jouée et très cool et totalement le genre d'intrigue que j'aime. C'est une histoire de. Enfin, que j'aime. J'adore les hôpitaux psychiatriques. C'est des jeunes dans un hôpital psychiatrique, voilà, qui se lient d'amitié, d'amour, tout ça, machin.
Et on me l'avait conseillé, je crois.
Franchement, trop. Ouais, on me l'avait conseillé et j'avais jamais regardé. Et là, je l'ai aperçu sur Netflix. J'ai fait bon, allez.
C'est quoi le format ?
20 minutes. Très cool.
Et il y a combien d'épisodes à peu près ?
Je sais pas, 8.
Ah, donc ça se mate à tout le monde. Une soirée, je l'ai saigné.
Absolument. Okay. Ça se regarde tout seul, c'est très bien joué, bête d'intrigue, trop cool.
Et bien voici pour les recommandations du moment.
Et voici pour ce podcast.
Et voici le journal Voici aussi qu'on adore.
Sponsorisé par Voici les potins, et Amazon.
Toujours des bons potins. Merci beaucoup Flore d'être venue.
Merci à vous.
Si les gens veulent suivre ton actu, ils te retrouvent sur Instagram, Flore Bang Bang. C'est ça ?
Si, si. Ouais. Bang, bang.
Il y a un Insta de l'impératrice aussi, j'imagine ?
Oui, bien sûr, tout à fait.
Merci beaucoup de nous avoir écoutés, si vous nous avez écoutés. Mais il y a peu de gens que vous entendiez cette phrase sans nous avoir écoutés. Comment ils ont cliqué sur
aller à 57 minutes.
J'adore la fin. Je vais entendre
le au revoir. Et on vous dit à très bientôt pour un prochain épisode.
Oui. Salut. Merci.
Merci.
Bye. On espère que cet épisode vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes audio, à le faire tourner, nous laisser des étoiles, des cœurs, des mots doux, des commentaires quand c'est possible. Ça nous aide à référencer le podcast.
Et vous pouvez aussi nous suivre sur YouTube, sur Instagram et même sur Facebook pour les plus vieux d'entre vous en tapant Camille et Justine. On se retrouve dans 2 semaines pour un prochain numéro.
Merci, bye.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.